essayer de nous aider à comprendre que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Et en disant difficile, ce n'est pas par rapport à ce que le monde est en train de vivre, mais c'est par rapport à ce que le maître de ce monde est en train de se mettre en évidence. Nous savons que par la parole de Dieu, Jésus nous a avertis, l'Esprit de Dieu nous a avertis, et que dans ces temps difficiles qui vont être de, il ne faut pas se voiler la face parce que la Bible le dit, vont être de plus en plus difficiles, et ces temps seront de plus en plus difficiles parce que Jésus, l'Esprit le dit, les ténèbres s'épaissiront. Et nous aurons, nous, en tant qu'enfants de Dieu et toute créature qui se donnera au Seigneur dans les temps de la fin, nous aurons à combattre. Et pour combattre l'adversité, le prince de ce monde, il faut que le chrétien, l'enfant de Dieu, soit rempli du Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, et seul le Saint-Esprit nous guidera et nous donnera la force de supporter ce que le diable est en train de préparer pour le monde, mais ce qu'il est aussi en train de préparer pour les chrétiens. Car la tactique du diable, c'est de détruire l'Église de Dieu. Et pour résister, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Alors, je commencerai simplement en lisant quelques versets et j'ai essayé d'être court et bref, mais je dirais que c'est un exercice un peu difficile pour moi. Je me souviens que mon fils, quand il était un peu plus jeune et dans l'église, un jour, après le culte, à table, il dira ceci à son père devant mon épouse et puis le reste de la famille. Il m'a dit, Papa, ne dis plus jamais tu seras court, parce que c'est là que tu es long. Donc je ne vous l'ai pas dit, hein? Mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour que cette matinée soit pour nous riche d'enseignements, de rappels, pour que dans les temps à venir, nous restions forts. Et je me rappelle encore ce cantique qui dit « Je suis fort par le nom de Jésus-Christ ». Alléluia. Alors, tout d'abord, je lirai dans chapitre 1er, non, je dirais plutôt 1er épître de Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, chapitre 5. Et je lirai simplement les versets 8 et 9. Donc c'est des recommandations, ce que nous dirons, vous certainement vous le connaissez déjà, c'est un simple rappel. Et voilà ce qui est écrit donc à partir du verset 8e. Pierre dira, Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce qui veut dire que dans le combat que nous aurons à mener et que nous avons commencé à mener, mais qui va se durcir, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Mais nous devons prier les uns avec les autres, unis par le Saint-Esprit, pour que les ténèbres reculent, ou plutôt n'avancent pas aussi rapidement que ce qu'elles puissent avancer, mais que dans le temps des ténèbres, nous voyons des âmes se convertir et que nous gardions la foi jusqu'au bout. Je vous rappelle que nous avons lu ici simplement. Résistez-lui, ferme à la foi. Alléluia. Pour ce conseil de l'apôtre Pierre, qui est de plus en plus valable, s'il était déjà valable de son temps, plus nous avançons, plus il prend autorité, ce conseil. Et également, on lit dans Éphésiens chapitre 6, et là vous connaissez cela certainement, au verset 10, il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui est toujours dans la même pensée que Pierre, je ne l'ai pas mis dans le sens Paul et Pierre, mais le message est le même. Par contre, là, Paul va définir exactement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, le conseil qui nous est donné par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est la même pensée. Et par sa force souveraine. Il est ajouté ensuite, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est un combat terrible à laquelle ou auquel nous serons amenés de plus en plus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Que ces conseils qui nous sont donnés par l'apôtre Pierre et conduits par le Saint-Esprit, nous puissions les appliquer à notre vie, afin, je le rappelle, et c'est écrit par Pierre et par Paul, de tenir ferme dans les temps qui sont devant nous et dans les temps où les ténèbres s'épaississent. Nous pourrions dire les uns et les autres, oui, mais c'est bien ce que l'enseignement est donné, mais nous avons Jésus qui nous garde. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous fais remarquer dans la lecture de Paul, il ne dit pas de revêtir Jésus, il dit à ceux qui ont entendu l'évangile et le message de la bonne nouvelle, comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons reçu, je vous fais remarquer que les verbes qui sont employés nous concernent chacun particulièrement. Et si je les reprends, sans rentrer dans les détails, il est dit « prenez, résistez, tenez ferme ». Mettez à vos pieds, mettez, prenez, et puis prenez encore, et puis priez. En fait, nous sommes tous les uns et les autres à prendre de tout cœur un enseignement qui est clair. Si tu veux être vainqueur, prends le casque du salut, prends le bouclier de la foi. Le Seigneur nous l'a déjà dit, nous l'a donné. C'est à nous de les saisir, c'est à nous de les prendre. C'est à nous de mettre le casque du salut. En fait, c'est à nous de vivre une vie de foi constante, une vie confiante dans l'avenir. Mais il faut se tenir debout, ferme, dans le combat. Ça ne sera pas toujours facile. La Bible le dit, Jésus le dit, nous avons devant nous des temps difficiles. Et comme nous venons de le lire tout à l'heure, ce n'est pas que nous aurons à lutter contre la chair et le sang, contre nous-mêmes en fait, mais nous avons à lutter contre la puissance des ténèbres. Et il ne faut pas se figurer que le diable, c'est une petite personne. Mais non, mais le diable, il a toute autorité. Il a une autorité qui est peut-être limitée par Dieu, mais il a une autorité. Il a toute une armée de démons avec lui. C'est le prince des ténèbres. C'est lui qui règne sur le monde. En contrepartie, nous avons la puissance de Jésus. Et pour résister au diable, pour résister à la puissance des ténèbres, il faut être rempli de la personne de Jésus. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir vaincre toutes les attaques rusées de l'adversaire. Et elles sont subtiles. Et ne venez pas me dire aujourd'hui que le monde ne s'enfonce pas dans les ténèbres. Nous voyons plein de choses. Aujourd'hui, plus que jamais, nous rentrons dans une ténèbre. On abat toutes les frontières. Regardez le monde dans quelle misère il rentre. Mais à côté de ça, je vous dirai, ne craignez rien. Tu étais un enfant de Dieu fidèle. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. N'a-t-il pas dit, ne craignez rien, car je suis avec vous. Oui, il est avec nous. Oui, il nous parle. Oui, il nous donnera la victoire. Si nous sommes fidèles, fidèles à sa parole, fidèles à son nom, si nous croyons en ses promesses, alors oui, il agira en conséquence. Il agira en conséquence. Et quand je lis certains textes de la Bible, je prie pour moi-même, je prie pour mes frères et sœurs, mais parfois je suis attristé. Par exemple, quand je dis « Et la foi de beaucoup se refroidira. » Le Seigneur nous appelle à garder la foi, à être ferme dans la foi, à être inébranlable dans la foi, à avoir une grande confiance à lui. Quels que soient les temps et les circonstances et les difficultés que nous rencontrons ou que nous rencontrerons, ne nous voilons pas la face. Dieu a parlé et il parle encore aujourd'hui et il parlera demain jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais il nous dit, il nous donne des signes pour nous dire, voici je viens bientôt. Mais avant que je vienne, il y aura des temps de combat, des temps de tribulation, des temps d'opposition. C'est celui qui sera fidèle, qui vaincra et qui aura la vie éternelle. Le Seigneur ne nous a pas appelés simplement pour nous dire que nous aurons une place dans le ciel. Il nous a appelés pour servir et pour combattre toute l'adversité qui nous entoure, afin de résister avec une foi ferme dans le but d'arriver au ciel, mais d'en gagner d'autres à Jésus-Christ. Vous savez, j'ai habité pendant quelque temps dans une région où il y avait une tour qui s'appelle la tour de Constance. Et peut-être en avez-vous entendu parler. Il y était dans cette tour des femmes chrétiennes, protestantes, au temps du réveil du protestantisme. Et souhaitons que ce réveil atteigne encore nos frères et sœurs protestants. Et nous-mêmes, que nous demeurions dans ce réveil. Mais il y avait là la fille d'un pasteur. Le pasteur avait été tué, emprisonné, mort. Mais elle a été emprisonnée dans cette tour car c'était la prison des femmes. Elle s'appelait Mademoiselle Durand. Et pendant plus de 30 ans, elle a été emprisonnée dans cette tour. Et le temps où elle a été emprisonnée, elle a gravé, et ça existe encore avec le temps, mais elle a gravé, alors on ne sait pas avec quel instrument, avec quelle partie elle a gravé, mais elle a écrit un mot qui a fortifié plein de prisonnières qui venaient dans cette même cellule. Elle a écrit « Résister ». Résister. Résister, sous-entendu, dans la foi. Résistez, tenez ferme, ne perdez pas courage, parce que Dieu est avec vous. C'est tout cela que voulait dire se résister. Et cette dame ou demoiselle est sortie de la prison et elle a encore vécu quelques années dans la maison paternelle avant de rencontrer le Seigneur dans le ciel, dans la gloire. résister. Le chrétien doit résister en tout temps, en toutes circonstances. Et le Seigneur ne l'a pas démuni d'armes. Nous avons lu là la panoplie des armes qu'il nous faut saisir en tant que combat, en tant que protection. Quand il est parlé de l'épée, c'est pour combattre. Quand il est parlé du casque, c'est pour nous protéger, pour vivre une vie tout à la gloire du Seigneur, même si les temps sont difficiles. Jamais, jamais, je ne dois douter de la parole de Dieu. Jamais, jamais, je ne dois douter de l'efficacité du nom de Jésus-Christ. Jamais, jamais, je ne dois douter de l'accomplissement de la vie de l'Esprit dans ma vie, dans mon être intérieur et autour de moi. Seigneur, conduis-moi chaque jour et que ton nom seul soit béni et glorifié. Oui, ça peut être difficile. Oui, il y aura de l'opposition et il y en a déjà. Oui, on s'aperçoit que les autorités commencent à manifester pour essayer d'étouffer la religion. Mais la religion n'a jamais sauvé personne. C'est Jésus qui sauve. Mais par là même, comprenez l'attaque de l'adversaire qui est d'étouffer la religion, parce que comme ça, on étouffera le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, personne ne pourra l'étouffer. Celui qui s'accorde contre Dieu, c'est pas Dieu qui sera perdant, c'est celui qui s'attaque contre lui. Dieu est toujours un vainqueur. Et Dieu donnera toujours sa victoire à ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Vous savez, quand prenons quelques exemples, si vous voulez bien. Quand Moïse a été appelé, il était donc berger, mais il a été appelé sur la montagne, le mont Horeb. Il était en train de... Vous connaissez tous le texte, je fais juste un petit rappel. Il connaissait tout, il faisait paître ses brebis, et puis et en regardant le mont, il a vu quelque chose d'étrange, il ne savait pas encore ce que c'était, un buisson qui avait l'apparence de brûler et qui ne brûlait pas. Alors, curieux, il est monté, il s'est approché, et puis il a entendu la voix de Dieu qui dit « Ôte les chaussures de ton soulier ». De tes pieds, pardon, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Dieu va parler à Moïse au travers du buisson ardent. Et il va lui faire entendre qu'il avait choisi pour aller vers son peuple en Israël, qui était esclave et qui depuis plus de 400 ans priait Dieu pour envoyer un libérateur. Et au bout de 400 ans, Dieu a choisi Moïse, pour aller libérer son peuple. Et quand Moïse a entendu tout ce que Dieu lui disait, tu vas aller en Égypte, tu vas aller à Pharaon, tu vas porter ma parole, il a réalisé la responsabilité, il a réalisé sa faiblesse, il a réalisé qu'il ne pourrait pas, peut-être même a-t-il réalisé qu'en son temps il avait tué un Égyptien et que si les gens s'en souviennent, 40 ans auparavant, il allait peut-être aussi connaître la mort. Il avait beaucoup d'excuses. Mais Dieu va lui apprendre la confiance en lui. Comment lui a-t-il appris la confiance en lui? Alors Dieu va lui parler, va lui répondre à toutes ses objections par un miracle. Et quel miracle! Dieu va dire à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Et Moïse va répondre, un bâton. Et Dieu va lui dire, jette le bâton. Alors Moïse ne discute pas, il jette le bâton. Et quand le bâton tombe, voici que ce bâton devient un serpent. Un serpent. Et Moïse a un réflexe de peur, il se retire, il a peur. Il ne savait pas quelle catégorie était ce serpent. Mais permettez-moi de vous dire que le serpent, c'est l'image du diable. Qui a fait chuter Adam? C'est Satan. Il est rusé. Il est menteur, il est subtil, il est tentateur, il sait comment prendre chaque individu, il connaît les faiblesses de chacun ce matin comme de mienne. Il les connaît et il les met en pratique, il essaye par tous les moyens de nous faire chuter et tomber. Pas la peine d'attendre le temps des ténèbres, il a déjà commencé son œuvre, il essaye de nous faire tomber. Et celui qui nous donne la victoire, c'est quand on met sa confiance en Dieu et au travers du nom de Jésus. Ah oui, prends-le. Prendre un serpent, quand vous ne connaissez pas la catégorie du serpent, vous savez qu'il y a des tout petits serpents S'ils vous mordent, dans la minute qui suit, vous êtes mort. Oui, ça n'avait pas un serpent. Et Dieu va lui dire, ben non, prends-le par la queue. Alors Moïse, un certain courage quand même. Hein. Bon, allons-y. Hein. Et il va, paf, il le prend par la queue. Et le serpent devient un bâton, à nouveau. Ah, il devait être content, hein, Moïse. Mais là, il vient de toucher du doigt que celui qui écoute la parole de Dieu et qui a confiance en Dieu, il est plus fort que le diable. Amen. Et Dieu va l'amener à faire d'autres expériences. Parce que quand vous lisez l'histoire de Moïse, effectivement, Moïse est allé quelque temps plus tard devant le Pharaon, suivant le conseil et l'ordre de l'Éternel. Et là, pour la première des choses que Moïse fait lorsqu'il converse avec le Pharaon, c'était de vouloir montrer la puissance de Dieu. Alors, il prend son bâton, comme Dieu lui dit, et il jette à nouveau le bâton. Et le bâton redevient serpent. Dieu fait des miracles. Hein. Vous avez l'air d'accord. Hein. Ouais. Alors, Pharaon, il a dit... J'y étais pas, mais je me le représente avec un sourire. Appelez-moi les magiciens, tous ceux qui travaillent avec les astres, faites-les venir, ceux qui font des prédictions, amenez-les. Alors, ils sont venus, une ribambelle, là. Et tous ont pris avec un bâton, on leur a dit de venir avec. Alors, ils sont tous venus, paf, peut-être pas, hein, mais enfin, ils sont arrivés, ils ont fait plein de serpents. Le Pharaon voulait dire, tu vois, nous aussi on a le pouvoir de changer les choses en serpent. Eh oui. Mais voilà, c'est que le seul serpent de Moïse a mangé tous les autres. Et le serpent est redevenu bâton. Vous comprenez l'image? Le diable pourra sortir tous les serpents qu'il veut pour nous faire chuter, tomber. Mais si nous avons confiance en Dieu, si nous avons confiance en sa parole, si nous avons confiance au nom de Jésus-Christ, tous les serpents qu'il nous présentera, nous les mangerons, pas nous, mais le Seigneur les exécutera. Alléluia! Je ne suis pas seul, il est avec moi. Il m'a appelé non pas pour périr, mais pour régner avec lui. C'est ça l'amour de Dieu. Et dans ma marche ici-bas, eh bien, il va m'aider. Dieu n'a jamais dit que vous ne seriez pas tentés. Hein? Jésus lui-même a été tenté, mais il a vécu sans tomber dans la tentation. C'était le Fils de Dieu. Nous, on peut peut-être chuter, on a chanté ça tout à l'heure, on peut peut-être chuter, oui, mais nous avons encore la grâce. La grâce, si nous nous tournons vers le Maître, si nous nous trouvons, nous tournons vers notre Sauveur, si nous l'implorons avec repentance sincère, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous faire encore avancer dans ce chemin de victoire. Ne redoutez pas ce qui peut vous arriver dans l'avenir. Ne dites pas, c'est trop difficile de vivre en chrétien, je retourne à ce que j'ai vomi. Mais souvenez-vous ce qu'a dit le Seigneur, malheur à ceux qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Malheur. Un malheur les attendra. Car si je ne me repens pas, je n'aurai pas droit au salut. Il faut le saisir, il faut le comprendre. Ce n'est pas parce qu'un jour j'ai donné ma vie à Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême que je suis obligatoirement sauvé. Si vous pensez ça, c'est une erreur monumentale. Monumentale. Pour gagner le ciel, je donne ma vie à Jésus. Je consacre ma vie à Jésus. Et je compte sur sa grâce, mais aussi sur ma volonté personnelle de faire ce qu'il m'enseigne pour obtenir le salut. C'est tout à fait différent. Ça serait trop simple. Non. Sommes-nous des gens sans avoir un esprit critique parce qu'ils ne sont pas éclairés par la vérité, qui toute la semaine pêchent et qui le samedi vont à confesse, et à qui on dit, eh bien, maintenant que tu t'es confessé, tu fais 4 à verre et 5 pas de terre, et t'es pardonné. Et le lundi, je recommence. Je pêche à nouveau. Je mens à nouveau. Je ruse à nouveau. Je suis infidèle à ma femme, à mon mari. J'ai des mauvaises pensées. Je regarde ce qu'il ne faut pas regarder. Je vis dans le péché, quoi. Et vous croyez que Dieu va dire, ah, ben c'est bien. C'est bien. Alors quelqu'un va me dire, mais le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il pardonnerait 70 fois 7 fois? Oui, il pardonne. Mais ne jouez pas avec cela. Parce que quand il a dit ça, il n'a pas dit pour le salut. Il a dit pour la communion entre frères. C'est différent. Vous voyez, il y a des gens qui appliquent les versets comme ça leur convient. Dieu ne se lasse pas de pardonner, c'est vrai. Mais vas-y, continue. Permettez-moi de vous interroger comme ça. Vas-y, continue, vis dans le péché et on verra si tu rentreras dans le ciel. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe ou est-ce que dès le départ, Dieu n'a-t-il pas dit à Moïse? Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a quand même une relation dans la sainteté. C'est pas votre avis? Bien écrit dans l'Ancien Testament que Dieu est 3 fois saint. Et que ce qu'il demande dans le Nouveau Testament, c'est que nous soyons saints, parce qu'il est écrit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, sans être agréable à Dieu, nous ne verrons le Seigneur. Ce qui veut dire que ce que Dieu a dit à Moïse en son temps, il l'appliquera dans les derniers temps. Et dans les temps où nous se comparaîtrons devant lui. Et qu'a-t-il dit de particulier à Moïse? Quand le peuple d'Israël s'est mis à adorer le faux Dieu, mais c'est un péché d'abomination. Dieu avait dit, tu m'adoreras moi seul. Il avait fait comprendre. Et quand Moïse est descendu de la montagne, où justement il redescendait avec les 10 commandements, et qu'il a vu le peuple en train d'adorer le veau d'or, son sang n'a fait qu'un tour. Il s'est irrité. Il a cassé les tables de la loi. Il ne comprenait pas que le peuple pût agir ainsi alors que Dieu l'avait sorti du pays d'Égypte, alors que Dieu l'avait libéré au travers de la mer Rouge. Il avait trouvé sa liberté. Et voilà que maintenant, ils oublient tout ce que Dieu a fait déjà pour eux. Les interventions de Dieu, les miracles de Dieu qu'ils ont connus pour trouver la libération. Ils les ont déjà oubliés. Ils adorent un veau d'or. Dieu est mis de côté. Oui. Alors Moïse va remonter en disant, je vais voir si je peux obtenir de la part de Dieu le pardon. Alors le peuple a attendu. Moïse est monté. Et Moïse, c'est vrai, sur la montagne, il a imploré le pardon de Dieu. Ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, vous vous souvenez de ça? Ce peuple que tu as fait sortir, ne le fais pas périr dans le désert, mais si quelqu'un doit mourir, que ce soit moi, que je meure à leur place. Ça partait d'un bon sentiment. C'était une belle prière. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Dieu? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce que Dieu répondit à Moïse? C'est celui qui pêche contre moi qui sera rayé du livre de la vie. C'est écrit. Bien sûr, aujourd'hui, merci Seigneur, si je le disais tout à l'heure, si nous nous trompons, si nous trébuchons, nous pouvons nous repentir, nous pouvons trouver grâce, à condition de ne pas recommencer, mais de compter sur sa grâce, comme on le chante parfois. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Mais le plus loin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Soyons pas comme ces gens que je citais tout à l'heure. Je vis une vie de péché, excusez ce que je vais dire, une vie de cochon dans la semaine. Je fais ma petite partie de chrétien et puis après je recommence. Alors à partir de ce moment-là, si vous êtes assez conscient de ce que la parole de Dieu dit et de ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament à ceux qui justement enseignent et qui ne font pas ce qu'ils enseignent, Jésus leur dira, hypocrites que vous êtes. Et les hypocrites n'héritent pas du royaume de Dieu. Comprenez bien ça? Si vous trouvez notre solution, il faut venir me la dire et me la montrer bibliquement. Dieu a montré à Moïse qu'il était le Tout-Puissant, qu'il pouvait faire des miracles extraordinaires. Et nous, Dieu nous a donné, aujourd'hui, il ne nous a pas donné un bout de bois. Ce bout de bois a été appelé dans le livre de l'Exode le bâton de Dieu. Et vous savez que quand Dieu a continué quand Moïse a continué à marcher avec le peuple d'Israël, ce bâton, à la sortie du pays d'Égypte, a fendu la mer en deux. Et combien de fois Moïse s'est appuyé sur le bâton de Dieu? Pour nous, le bâton de Dieu, il a un nom. C'est le nom de Jésus. Il aplanira les difficultés. Il aplanira les temps difficiles. Il est celui qui aujourd'hui agit dans le cœur, agit dans l'âme, agit dans le corps. Il a la toute puissance de Dieu. Il a le tout pouvoir de Dieu. Et il a vaincu le diable à la croix. Alléluia. Il a vaincu le diable à la croix. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous si nous sommes couverts du sang de l'agneau qui a coulé au calvaire. Nous sommes gardés à condition de ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Ça, c'est très dangereux. Voyez-vous, il nous faut que vivre dans la personne de Jésus-Christ. Permettez-moi de lire ces deux versets dans Luc au chapitre 10, versets 19 et 20. Écoutez bien ceci, c'est Jésus qui parle. Je vous le lis dans Parole vivante. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir, dira-t-il aux disciples, de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir avant tout, ce n'est pas tant de voir que les esprits mauvais vous soient soumis, mais plutôt de savoir que votre nom sont inscrits dans le livre des cieux. À condition que nous marchions, comme le dit la Bible, honnêtement, comme en plein jour. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Ce n'est pas à nous de rentrer dans le royaume à nouveau des ténèbres. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu à part entière, à condition que nous restions fidèles, irréprochables, agréables. Ce sont des termes qui sont dans la Bible. Pour être à Dieu, en présence de Dieu pour l'éternité, il faut être trouvé agréable. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, quand je vous regarde, je vois que des gens agréables. Non, parce que d'un seul coup, là, je suis pris d'un... Non, j'ai confiance à vous, hein, mais je suis pris d'un doute. Parce qu'il ne faut pas se fier à l'apparence. Non, mais vous, non, vous n'avez pas d'apparence, vous êtes net. Quoique... Non, je ne vais pas gratter le vernis, parce que... On risque d'avoir des surprises. C'est pas à moi qui dois juger qui que ce soit, et Dieu me pardonne si vous avez senti là un esprit du jugement. Non, pas du tout. Parce que moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Personne n'a le droit de juger son frère ou sa sœur. Mais tous ont le pouvoir de demander pardon pour l'un ou pour l'autre. Celui qui est juge et qui sera mon juge, c'est Dieu. Et je sais que, comme je viens de vous le dire, et sciemment je le répète, il faut que vous soyez trouvés agréables devant Dieu. c'est-à-dire net, clair, que rien, quand il va vous regarder, il va vous scruter, ou moi, physiquement et intérieurement. Et ce qui compte, ce n'est pas pour Dieu l'extérieur, c'est l'intérieur. Non, me trompais-je? Parce que lorsque je reviens à mon exemple de tout à l'heure, où Jésus, s'adressant aux docteurs et aux religieux, leur dira, hypocrite que vous êtes, car vous nettoyez l'extérieur du plat, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur du plat. Et ça, ce n'était pas pour les gens qui étaient autour, c'était pour eux. Et c'est parce que Jésus parlait avec franchise qu'on a voulu en son temps le supprimer avant la croix. Avant la croix, on a essayé de le faire tomber d'une montagne afin qu'il disparaisse, qu'on n'entende plus parler de Jésus. Mais Jésus est passé au milieu de ses accusateurs sans que personne ne le touche parce que son temps n'était pas encore venu. Est-ce que la parole de Dieu est choquante ou est-ce qu'elle est vérité? La parole que vous avez, la mienne que j'ai là, c'est une parole de vérité. Et si je l'écoute et si je la suis, je verrai la gloire du Seigneur. Alors, parole de vérité, un dernier petit exemple, vous me permettez? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des héros. J'ai bien dit des héros, hein? Vous n'avez pas vu que je n'ai pas fait la liaison, hein? Autrement, ça aurait fait des héros. Non, 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 des héros! Et du temps de David, il y avait des héros. Un jour, ils ont dû aller se battre contre les Philistins, David et son armée. Et dans son armée, il y avait des héros. Et un qui s'appelait, je vais vous dire son nom, ça va peut-être vous faire sourire si vous ne l'avez pas lu, Éléazar. Vous l'avez lu? Ouh! Vous savez qui était son père? Hein? Comment? Allô? Qui est à l'appareil? Vous ne connaissez pas son père? Vous allez en parler à midi à table. Son père, il s'appelait Dodo. Comme quand vous dites à votre fils ou petit-fils, laissez-leur d'aller faire Dodo. Déo, Déo. Ah ben voyez, vous êtes venu, vous aurez au moins appris quelque chose. Éléazar, fils de Dodo, je ne vous dis pas le nom de la maman parce que c'est Naomi ou quelque chose comme ça. Mais il faisait partie des trois vaillants héros. Et il est allé au combat avec David. Et il a combattu pendant des heures avec l'épée, une épée dans sa main. Et toute la journée, il a combattu les Philistins. Il en a décapité, il en a tué des Philistins. Toute la journée. Et à la fin du combat, qu'est-ce qui s'est passé? L'épée était unie à la main d'Éléazar. Il ne pouvait plus détacher sa main de l'épée. Ce qui veut dire en clair... Là, je n'ai pas de bâton, mais il y avait l'épée devant, le bras derrière et le tout faisait une unité. Il a été vainqueur par l'épée qu'il tenait à la main. Il n'a pas été tué. Formidable. Vous ne pensez pas que c'est une image formidable? Alléluia. Il combattait un adversaire. Il combattait un ennemi. Il y en avait, excusez le mot, un paquet devant lui. Il en a tué un paquet aussi. Mais il n'a pas succombé. Non seulement il se battait avec l'épée, mais il était un vaillant héros de David, c'est-à-dire qu'il était aussi gardé par Dieu. Quelle grâce! Quel exemple! Oui, nous l'avons lu tout à l'heure. Le diable a une multitude à sa disposition pour faire tomber le chrétien, pour faire tomber le peuple de Dieu. Mais mon frère, ma sœur, si tu détiens dans tes mains l'épée de Dieu, qui est la parole de Dieu, alors tu pourras résister au diable. Tu pourras le vaincre dans toutes ses tentations. parce que le diable, qui ne s'est pas gêné de venir tenter Jésus, n'a jamais eu la victoire. Pourquoi ? Vous allez me dire, parce que Jésus était le Fils de Dieu, c'est vrai. Mais je vous rappelle que Jésus était comme nous. Il n'est pas descendu en tant que Fils de Dieu, je veux dire, en disant « Je suis le Fils de Dieu, je peux tout », bien qu'il a dit « J'ai reçu le pouvoir ». Mais quand il était sur terre, il avait la condition d'homme. Il a été, dit-il, la parole, tenté de la même manière que nous. Par contre, lui, il a vécu sans commettre le péché, c'est-à-dire qu'il a réfuté, repoussé toutes les tentations qu'il a pu connaître. Et quand le diable s'est présenté devant lui pour le tenter alors qu'il avait fait 40 jours de jeûne et de prière, il était dans un état de faiblesse. Le diable se présente à ce moment-là. Et le diable se présentera devant vous toujours quand vous êtes dans un état de faiblesse. Toujours quand vous désirerez quelque chose qui est contre la parole de Dieu, il va pousser pour que enfin vous puissiez tomber. Il va même camoufler les choses, il va tourner la parole de Dieu. Tu ne fais pas mal, c'est pas grave, tu ne risques rien. Mais si je commets le péché, je perds la vie éternelle. Jésus, quand il a été tenté 3 fois dans le désert, comment s'en est-il, entre guillemets, sorti ? À chacune des tentations du diable, il a répondu, vous le relirez, hein, mais seulement par les 3 mots, il lui répondait à chaque fois, « Il est aussi écrit. » Alléluia. Vous savez, je me permets là d'ouvrir une petite parenthèse rapide pour vous dire que, si ma mémoire ne me trahit pas, dans la parole de Dieu et de l'Ancien Testament, il y a un homme, un jeune homme, est-il écrit, qui a été beau de figure, qui était sage, qui était intelligent et qui travaillait pour un maître qui s'appelait Monsieur Potiphar. Et il nous est dit que dans son service, un jour, Madame Potiphar est venue à sa rencontre et lui a dit, je vous cite le texte biblique, et lui a dit, couche avec moi. Et voilà que Joseph a entendu cela et il a fait mettre en exergue que son maître était bon avec lui, qui ne pouvait pas agir d'une telle manière, mais surtout ce qu'il a dit, comment, en pensant à son Seigneur, il a dit, comment pécherais-je en faisant un si grand mal, sous-entendu en son Seigneur. Comment pécherais-je? Je ne vais pas désobéir à mon Dieu, alors que Joseph a été choisi par Dieu pour intervenir auprès du peuple de Dieu. Et c'est par lui que le peuple d'Israël est descendu par une famille composée de 70 personnes qui étaient de la famille de Joseph. Ils sont descendus en Égypte, dans la vallée de Kuzen que leur avait donné le Pharaon. Et c'est là que le peuple d'Israël, pendant plusieurs années, a prospéré. Et de 70, ils sont sortis, si ma mémoire ne me trahit pas, 630 000 ou 650 000 du pays d'Égypte quand ils en sont partis. Joseph avait été choisi pour que le peuple d'Israël, au temps de la famine et tout ça, ait de quoi être logé, de quoi être logé. Dieu avait conduit toute chose. Il avait été choisi, Joseph, pour la bénédiction. Mes frères et sœurs, vous avez été choisis pour amener la bénédiction. Alléluia. Ne peut plus vivre en désobéissant à Dieu. Alors, pour ne pas désobéir à Dieu, il faut être à l'écoute de la parole de Dieu. Il faut faire qu'un avec la parole de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir les bénédictions de Dieu, pour voir les promesses de Dieu, il faut saisir la parole de Dieu, la saisir avec la main, la saisir avec le cœur. Non pas seulement avec l'esprit, mais avec le cœur, la saisir avec la foi. Et par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La parole de Dieu doit vivre en nous. La parole de Dieu doit être l'aliment spirituel. Nous ne pouvons pas la mettre de côté, mais nous devons la lire chaque instant de chaque jour. Oh, vous allez me dire, c'est long. Non, mais prends le temps de regarder. Prends le temps d'ouvrir ta Bible. Prends le temps d'avoir une communion avec Dieu. Autrement, tu seras emporté comme un fétu de paille quand les épreuves deviendront de plus en plus terribles. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tout à l'heure je disais, et je termine, dans la Bible il est monté un exemple aussi. Il y a des exemples positifs. Et laissez-moi vous parler d'un exemple terminé. C'est peut-être pas bon de terminer par là, mais je ne peux pas le taire, excusez-moi. Avez-vous entendu parler de Judas? Judas. Il a vécu 3 ans avec le Seigneur. Judas a connu les mêmes bénédictions que les autres disciples. Judas a participé aussi à ceux qui sont partis 2 à 2 pour prêcher l'Évangile. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Mais voilà qu'un jour, Judas a redié son Seigneur. Et vous savez pourquoi il a redié son Seigneur? Pour 30 pièces d'argent. C'est vrai que c'était dans le plan de Dieu que Jésus soit crucifié, que Jésus soit trahi. Mais vous savez où, pourquoi en fait, quand on veut aller au fond des choses, Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent? Parce qu'il aimait quelque part Judas, Jésus. Il l'a trahi parce qu'il avait l'amour de l'argent. Même s'il est un instrument pour amener la crucifixion de Jésus, il y a là l'amour de l'argent. Et tant mieux, si tout va bien pour vous, dites gloire à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Mais savez-vous qu'il est écrit l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Merci Seigneur, je crois qu'on doit dire merci Seigneur pour ce que nous avons. Ce que nous n'avons pas, Seigneur, si c'est dans ta volonté, tu nous l'accordes. Amen. Tu es celui qui bénit en ton temps. Tu es celui qui répond aux besoins. Alléluia. Et je sais par expérience que Dieu est fidèle dans ses promesses. Judas a trahi Jésus. Vous savez ce que ces 30 pièces d'argent lui ont rapporté, en fait? Je vais vous dire, remords, c'est écrit dans la Bible, hein. Remords, tristesse et mort. Parce que Judas s'est trompé de route. Quand il a eu des remords, c'est parce qu'il s'est souvenu que Jésus était son maître. Il s'est souvenu de tout ce qu'il avait vécu. Alors, il a eu des remords. Il est allé vers ceux qui lui avaient donné les 30 pièces. Il les leur a donné, eux. Il les a jetés. Et les autres les ont ramassés. Et puis, ils ont acheté un terrain. Et là, puisqu'il avait des remords sur sa vie, sur sa conscience, au lieu d'aller se pendre, s'il était allé, c'est ce que j'allais dire, frère, s'il est allé comme Pierre qui a regardé Jésus et Jésus avec des regards d'amour lui a pardonné, Pierre pleura amèrement sur son reniement vis-à-vis de Jésus. Mais Judas lui s'est trompé de route, à savoir pourquoi il n'est pas allé vers Jésus, puisqu'il avait du remords d'avoir fait ce qu'il a fait à Jésus. Il aurait retrouvé tout comme Pierre, eh bien une repentance et en même temps un pardon. Mais il a préféré aller se pendre, tellement ce fardeau était lourd. Ce qui veut dire que si on renie le Seigneur Jésus, si on renie la parole, si on vit une vie de patachon en tant que chrétien, Dieu n'approuve pas. Dieu, ce qu'il veut, ce sont des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui soient remplis du Saint-Esprit. Savez-vous ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Je vais vous le dire, même si c'est peut-être terrible, mais c'est ce qui est écrit. En son temps, dit Jésus, celui qui me reniera, je le renierai aussi. Allez-vous aller contre cette parole? Et dire peut-être Dieu est tellement bon, parce que beaucoup pensent ça. Peut-être pas vous, peut-être pas ici, peut-être pas dans ce que l'on enseigne. En tout cas, je n'enseigne pas ça. Parce que la Bible me dit de ne pas enseigner ça. On ne peut pas dire Dieu est tellement bon qu'il va sauver tout le monde. Certainement pas. Je crois à la bonté de Dieu. De tout mon cœur, j'y crois. Et je la vis. Et je la vois quand il bénit. Mais je sais aussi que quand je lis les écrits, tout à l'heure je vous ai rappelé ce que Moïse avait demandé, et vous disant que Dieu avait dit, ce sont ceux qui pêchent qui périront. Savez-vous que là encore, si ma mémoire ne me trahit pas, quand Moïse est descendu, Moïse a dit, passez par le fil de l'épée ceux qui se sont élevés contre Dieu. Et là, 20 000 personnes moururent. Dieu est bon pour ceux qui font sa volonté. Dieu sauvera ceux qui résisteront au diable. Dieu sauvera ceux qui resteront dans la lumière et qui confesseront leur lumière qui est Jésus-Christ. Dans un monde enténébré, nous serons tous appelés à briller comme des flambeaux pour que ceux qui seront dans les mêmes épreuves que nous, plutôt que de périr, se tournent vers le Seigneur Jésus et soient sauvés et qu'ils vivent. Et si même, et je termine en disant ça, et si même dans cette vie qui nous attend, qui sera difficile, si nous devons perdre notre vie pour le nom de Jésus, soyez heureux. Heureux. Parce que vous serez sauvés pour l'éternité. Heureux, dit Jésus, serez-vous lorsque vous serez persécutés et qu'on vous livrera aux bêtes sauvages. Heureux serez-vous. Êtes-vous heureux ce matin? Êtes-vous heureuse ce matin d'être enfant de Dieu et d'avoir pour héritage éternel un héritage éternel? Alléluia. Seigneur, viens remplir ma vie de ton esprit. Fortifie-moi, encourage-moi et que je sois pour toi un témoin fidèle. Un témoin fidèle avec ta parole, avec ton nom, avec la foi que je place en toi. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Amen.